Est-ce que vous pensez que la BD, c'est forcément quelque chose pour les enfants? Aujourd'hui, je reçois Pénélope Bagieu et elle m'a fait le meilleur compliment. Elle m'a dit on n'a jamais posé ces questions-là. Avec Pénélope, on parle de son engagement en tant qu'autrice de BD et on va parler des différents engagements qu'elle a pu avoir, comment elle envisage, elle, la BD dans le rôle sociétal. On parle évidemment de son dernier opus autour des sorcières. Vous allez voir, c'est un épisode vraiment passionnant qui donne une autre image, je pense, de la BD et de la manière dont Pénélope l'envisage. Donc je vous laisse avec cette écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pénélope.
Bonjour.
Donc, on se connaît plus ou moins, on s'est croisé mille fois, mais on se connaît pas vraiment.
Ouais.
Je suis content de te recevoir parce qu'en fait, donc malgré tout, même si on se connaît pas vraiment, on se connaît depuis un petit moment, donc je suis depuis un petit moment ce que tu fais. Et je sais que tu es hyper engagée en tant qu'illustratrice, dessinatrice. Et justement, moi, la question, en fait, la question que je me pose en ce moment, c'est comment on change de société, en fait. Il y a plein de changements qui sont en cours, dont ceux pour lesquels tu te bats, en particulier le développement du féminin. Et par conséquent, je me pose la question du rôle de chacun, c'est-à-dire société civile, politique et entreprise. Moi, je te considère plus dans la société civile, c'est-à-dire comment tu fais bouger les lignes. Pour moi, la première fois où tu as fait vraiment bouger les lignes, c'est quand tu as fait ce dessin, ce thread sur la pêche profonde. Mm-hmm. Est-ce que toi, enfin, comment tu l'envisages de ton côté? Est-ce que c'est pour ça, c'est comme ça que tu as commencé cette partie un peu engagée ou tu avais commencé avant?
Non, j'avais fait des choses avant, mais qui étaient peut-être moins visibles. La deuxième ou troisième année de mon blog, j'avais monté une opération avec la Croix-Rouge. C'était une époque, c'est la grande époque des régies pub,
ouais.
Où il y avait des pages d'affichage de pub, et je voyais à quel point c'était facile de faire du trafic avec de la BD. Et du coup, je m'étais dit, si vraiment on paye aux pages vues, si on met un annonceur dessus et qu'en face on met quelqu'un qui sait quoi faire avec de l'argent, ça devrait assez bien marcher. Et donc ouais. J'avais contacté Orange à l'époque et la Croix-Rouge pour les mettre ensemble. Et je leur avais dit, moi je m'occupe de faire en sorte que les gens viennent. Donc j'avais ouais. demandé à tous les auteurs BD qui avaient des blogs BD qui marchaient bien à l'époque de faire des strips, il y en avait un par jour.
Oh, wow.
Et en échange, Orange s'engageait à nous acheter de l'espace pub qui filait directement à la Croix-Rouge au moment de Noël.
Ah, génial.
Voilà. Et c'est bien, ça m'a appris à travailler avec des grosses entreprises et avec de l'humanitaire et à me dire que c'était vraiment des deux côtés des gens avec qui je voulais plus jamais travailler. mais ça a récolté beaucoup d'argent. Après, je me suis rendu compte surtout plus sérieusement que, en fait, pour faire ce genre de choses, il fallait pas être une personne toute seule, qu'il fallait laisser, voilà. Mais ça m'a appris, j'ai mis la main à la pâte de, OK, en fait, on peut mobiliser énormément de gens. Ça peut représenter une vraie force. Et du coup, typiquement, pour cette histoire de chalutage en eau profonde, c'était une pétition qui plafonnait, qui n'arrivait pas à mobiliser les gens, parce que c'est un sujet pas hyper sexy, pour lequel il faut lire beaucoup de choses, et c'est très verbeux, quoi, il y a beaucoup de chiffres. Donc un truc qui est parfait à faire en BD, exactement. Et du coup, je savais que ça allait ramener beaucoup de gens vite, que ce serait viral. Enfin, c'est un outil que je connais bien. Et du coup, ouais, on a pu mobiliser 1 million de gens pour signer la pétition, donc...
Parce que c'est passé... Enfin, si je me souviens bien, je me souviens plus en quelle année c'était, mais c'était 2008, 2009, non,
je sais pas. Moi, je dirais que c'était après 2010.
Ah ouais?
Donc, ça devait être 2012, 13. Ouais, 12, 13, déjà.
Je pensais que c'était plus loin. J'ai eu la sensation qu'il y a eu énormément de reprises médias. Enfin, ça a fait vraiment pas mal parler en France, mais à l'étranger également. Enfin, c'était hyper
ouais.
fort, non?
Et ce qui était intéressant, c'était que, comme toujours, ce qui intéressait les médias, c'était l'effet de buzz, pas du tout le fond.
Ouais.
C'était qu'ils disaient, ah ouais, bon, les poissons, on s'en branle. Mais du coup, énormément de retweets. Et donc après, je pense que l'autre partie du travail, quand on fait un truc comme ça, c'est de réussir à recanaliser les gens sur le sujet, à remettre le curseur des médias en disant, du coup, j'aimerais bien quand même que vous parliez du problème qui est que, il faut faire passer une loi au Parlement européen, en fait.
Mais ça s'est fait.
Oh, ça s'est pas fait directement, parce que dans la série de toutes les leçons que ça m'apprend, toutes ces ouais. choses-là, j'ai aussi vu la limite du pouvoir populaire face au pouvoir politique.
Vas-y, explique.
Bah, c'est-à-dire qu'un million de gens exigent quelque chose et en face,
ça bouge
les
pas.
Gens qui décident ont un autre agenda que ouais. Faire ce que les gens veulent. Mmh. Et donc, c'est le fameux vote où les gens avaient dit « on s'est trompé de bouton ». Ils ont voté contre l'interdiction. Et quand après on leur a demandé des comptes en disant « Bonjour, hâte machin, vous êtes mon député, j'aimerais savoir pourquoi vous avez voté contre. » Ils ont dit « Mais on s'est trompé de bouton. »
Ah bah bien sûr.
Voilà. Mais bon, à l'origine de tout ça, l'activiste qui a créé tout ça, Claire Nouvian, qui après s'est illustrée un peu en politique, elle est très du genre « Tu la chasses par la porte, elle revient par la fenêtre. » Donc Claire. Sa loi a fini par passer des années après. Et c'était entre-temps devenu un sujet qui était familier pour les gens. Ils disaient « Ah mais oui, j'avais vu une BD. » Je ne dis pas du tout que c'est moi qui ai fait tout ce truc-là, mais elle est partie d'un sujet qui était très important et qui était plutôt un sujet qui était entre les mains des scientifiques et des politiques. Mmh. Et le fait que ce soit devenu quelque chose que tout le monde avait vaguement entendu parler, à l'origine de ça, le problème, c'était une chaîne de magasins. Quoi pas nommer.
Tu peux nommer.
Ok, c'est Intermarché. Et voilà, qui pêchait ce poisson, qui était entièrement financé pour ça. Et en fait, les gens allaient dans les supermarchés et leur demandaient des comptes en direct à la caisse. C'est-à-dire, ils disaient, c'est un truc de franchisé Intermarché. Ouais. Donc, les franchisés disaient à leur direction, moi, je veux pas savoir ce que c'est votre histoire, je m'en fous, mais vous réglez le problème parce que les gens disent qu'ils veulent plus acheter de poisson chez nous. Et puis, au même moment, il y a Monoprix qui a commencé à faire toute une com en disant, alors en tout cas, nous, on n'utilise pas de poisson chaluté en eau profonde. C'est devenu un truc, quoi.
D'accord.
Et en fait, ça marche bien quand les gens exigent des choses en direct. Je pense que parfois, il faut même qu'ils court-circuitent le circuit politique, puisqu'on en voit bien les limites. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand beaucoup, beaucoup de gens ont décidé de mettre la misère à une marque ou d'exiger des choses, ça marche.
Ça marche bien.
Ouais, le pouvoir de la honte, ça marche bien. C'est pas une blague.
Non, je sais que c'est pas une blague.
Il y a un super bouquin qui s'appelle Shame, écrit par une scientifique américaine, qui parle du pouvoir de faire honte aux marques. Et qu'en fait, ça marche.
Mais en fait, le truc, c'est que les consommateurs réalisent pas à quel point leur porte-monnaie est un outil de vote, je pense.
Oui, bien sûr. Choisir juste de ne pas acheter un truc, c'est le pire qu'on puisse faire à une marque, en fait.
Bah ouais, c'est ça. Non, mais clairement, si tu vas plus dans une... Enfin, par exemple, pour Intermarché, tu vas plus chez eux, ou t'achètes plus de poisson chez eux, bah concrètement, ils sont obligés de changer, quoi. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé avec Yuka.
Oui, c'est ça.
C'est la même
logique. Seul problème, c'est que c'est pas cette espèce de forme de clientélisme un peu militant, il peut pas s'appliquer à la politique. On peut pas dire, voilà comment on va vous punir de faire ce que vous faites en ce moment, on va pas voter pour vous, parce qu'après, on dit, mais du coup, on va voter pour qui?
Bah non, exactement. Et alors, donc cette histoire de pêche en eau profonde, c'est toi qui as eu l'idée de soutenir ou c'est Claire qui est venue te chercher?
Non, j'ai vu Claire parler à un TED, un TEDx Paris. Mmh. J'étais complètement galvanisée, je pense, comme tous les gens qui étaient dans la salle, parce que vraiment, c'est une femme qui... Enfin, c'est son super pouvoir, quoi. C'est qu'elle galvanise. Et je m'étais dit, putain, j'ai envie de raconter à tout le monde ce qu'elle a dit. C'était tellement fou, ça m'a tellement mis la rage. Mais... comment je peux trouver le résumé de sa vidéo? Comment je peux le partager? Je sais que si j'envoie du texte aux gens, les gens ne le liront pas. Et du coup, je me suis dit, je vais lui demander la permission, si elle veut bien, de le mettre en image. Je vais reprendre juste ce qu'elle a dit. Je ne vais rien inventer. Et j'ai cherché à la contacter, mais c'était impossible. Il y avait un contact at Bloom, quoi. Donc, je me suis dit, OK. Mais en même temps, je ne voulais pas qu'elle me dise non, quoi, et que je me retrouve avec un... Puis j'ai fini par obtenir son contact et je l'ai harcelé, en gros. Et je lui ai dit, si je reprends ce que vous avez dit, est-ce que vous m'autorisez à en faire une BD? Est-ce que vous m'autorisez à la publier, à la partager sur les réseaux sociaux? Croyez-moi, ça va être très partagé, j'en suis sûre, sûre, sûre. J'espère que vos serveurs, ils sont solides pour votre pétition, parce que c'est sûr que les gens, c'est incontestable. Ce qu'elle dit est incontestable.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et elle m'a dit, oh, bah, super, moi je sais pas, je tracte dans la rue avec du papier, alors je connais pas Internet, avec plaisir. Et voilà. Et après, en plus, on est devenus hyper copines.
Ah, c'est top.
J'ai tout gagné dans l'histoire.
T'as tout gagné. Voilà. Et alors, est-ce que tu... Enfin, justement, donc, sur la question que je te posais à l'origine, est-ce que tu crois que c'est le rôle des artistes, ou en tout cas, toi, est-ce que tu envisages ça comme ça, d'être engagé d'une certaine manière dans le mouvement, dans un mouvement de société
Je sais pas si c'est le rôle des artistes. D'un point de vue personnel, je comprends pas comment on peut ne pas aligner ce qu'on fait avec ce qu'on pense. Ouais. Pas parce qu'on est quelqu'un de formidable ou que c'est une question d'éthique. C'est que sinon, on est consumé parce qu'on vit, si jamais on n'arrive pas à le traduire en geste, c'est presque une façon de se défouler. C'est que si jamais on est hyper remonté toute la journée par le fait que le monde va mal, mais qu'on arrive à complètement cloisonner et à dessiner des choses qui n'ont rien à voir, chapeau. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu fous de ta rage si tu la mets pas dans ce que tu fais?
Mais il y a plein de gens qui font pas ça, hein, cela dit.
Ben moi, elle me bouffe sinon. Après, sur le fait de dire, ah, mais moi, je veux pas faire de politique. Alors là, je pense que c'est une question de privilège. Quand on arrive à vraiment être déconnecté, d'avoir l'impression qu'on peut ne pas, être politique, pour moi, c'est soit qu'on est très jeune. Et du coup, ça viendra. Soit qu'on est vraiment extrêmement privilégié. Parce que c'est compliqué de pas être politique. Aujourd'hui.
Ouais, dans le monde qui bouge en ce moment.
Ouais, c'est compliqué de dire, oh, je sais pas, ça m'intéresse pas.
Ou je vois pas très bien ce que je peux y faire, moi.
Alors ça, c'est plus légitime comme question, qu'est-ce que je peux y faire? Et c'est difficile, et c'est tout un cheminement de se dire, à mon échelle, quoi qu'il arrive, je peux faire quelque chose. Mais de dire, ça m'intéresse pas trop, j'ai très envie de parler avec les gens qui disent ça. J'ai vraiment très très hâte de savoir à quel moment le politique, pas la politique, mais le politique ne les touche pas, en fait. Je sais pas dans quel... truc d'enfant bulle, ils vivent, mais ça m'intrigue.
Et alors après, les sujets qui t'ont intéressé, ou en tout cas sur lesquels moi j'ai vu poindre ton nom, c'est le féminisme, forcément. Enfin, c'est vraiment le. Il y a eu des sujets entre les deux, j'imagine.
Oui, oui.
Mais moi, c'est celui-là que j'ai vu passer. Qu'est-ce qui fait. Enfin, en dehors du fait que tu es une femme, et, donc c'est logique que tu t'intéresses à la question, mais encore que, en réalité, il y a plein de femmes qui ne le sont pas, féministes. Pourquoi tu t'es impliquée autant sur ce sujet ?
Mais je ne me suis pas impliquée autant sur ce sujet,
non.
En fait. C'est marrant de voir ça comme des bons nouveaux sujets. L'année dernière, la couleur de l'année, c'était le taupe, et cette année, c'est. En fait, déjà, tout cet engagement-là, c'est le même. C'est-à-dire que c'est. De la colère de voir un vieux monde qui refuse d'avancer. C'est le même problème. En fait, tout est corrélé. Et j'ai pas l'impression de m'être dit je vais me lancer à fond dans le féminisme. J'ai fait un livre, enfin des livres, dans lesquels les personnages sont des femmes. On m'a systématiquement demandé alors pourquoi toujours choisir de parler de femmes ? Voilà,
ça, on a fait
émerger le problème rien qu'avec les questions. Quand je commençais la promo des culottés et qu'on me disait finalement ce livre il est presque féministe, j'étais obligée de devenir dingue et de dire il est complètement. Qu'est-ce que c'est que cette question débile en fait. Et c'est pas mon travail qui est engagé, c'est tout ce qui se passe après autour qui m'oblige à réagir. En fait, c'est une forme de militantisme de conséquences, quoi. C'est que jamais de la vie on commence un livre en se disant je vais traiter tel sujet militant. Je pense que personne ne fait ça. Mais après, quand on le défend et quand on rencontre les gens qui lisent et qu'on a des conversations autour de son travail, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a mis dedans soi-même. Donc, voilà.
Et donc là, le prochain bouquin, c'est Les Sorcières.
Ouais.
Et ce que je te disais, c'est que j'étais. Donc, je l'ai lu, évidemment. Et j'étais. Donc, j'ai reçu Odile Chabriac ici, etc. Je me suis beaucoup intéressé. Ben, je connais Maï, etc. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux puissances, à la puissance du féminin, aux sorcières, évidemment, à tous ces sujets-là. Et donc, moi, je m'attendais. Enfin, c'est bête, hein, mais. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que ça allait être un bouquin sur les sorcières qui défendait justement, tu vois, une vision hyper positive de la sorcière, etc. Et en fait, du coup, et je savais que tu avais bossé avec Mona en plus, donc. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était une image assez négative de la sorcière, et j'étais vraiment surpris.
Mais en fait, Sacrée Sorcière, c'est l'adaptation d'un roman pour enfants, qui est une fable fantastique dans laquelle il y a des créatures horribles, mangeuses d'enfants, qui prennent l'apparence de femmes pour les duper, et qui du coup ont plein de traits physiques de créatures surnaturelles. Ils ne sont pas du tout des femmes. Et dans le livre, il y a une autre femme, qui est une femme forte, autonome, hyper débrouillarde, qui s'affranchit complètement de l'autorité masculine, qui fait un peu peur à la société, et qui est très bizarre. Et c'est vraiment une sorcière moderne, et c'est la grand-mère, et c'est l'héroïne du livre. Donc on a d'un côté des créatures qui n'existent pas, qui sont magiques, et puis la grand-mère, au début, elle explique à son petit-fils que pendant hyper longtemps, pendant des siècles, on a persécuté des femmes en les traitant de sorcières et en les foutant c'est au bûcher parce qu'elles faisaient peur au patriarcat. Et son petit-fils lui dit « Mais toi, mamie, à cette époque, on t'aurait brûlée alors ?» Et elle dit « Mais complètement, mon chéri
!» Ça, c'est quelque chose qui était déjà dans le bouquin ou c'est quelque chose que t'as rajouté ?
Non,
un truc
non.
Que t'as rajouté ?
La grand-mère, elle était déjà super cool hein, dans le bouquin d'origine. C'est un bouquin qui a 30 ans et elle fumait des gros cigares et elle picole et voilà. Elle est assez transgressive. Mais le fait que pour moi, ça a toujours été le personnage autonome, féminin, fort et hyper brut et puissant. Aujourd'hui, avec la lecture moderne qu'on a du personnage de la sorcière, c'est évident que c'est une sorcière. Voilà.
Et t'as la sensation que le recul que t'as sur le secteur de la BD de manière générale, est-ce que t'as la sensation que justement les artistes essayent de prendre des positions ? Moi, j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, tu sais, ils se posent la question de engagement versus chiffre d'affaires, en fait. Quelque part, c'est soit il faut que je vende, soit il faut que je sois engagé. En tout cas, je vois ça chez beaucoup d'artistes. Pas nécessairement
en BD.
Non, pas nécessairement en BD, je parle de manière générale.
Ah, oui,
tu
oui.
vois, t'as des films engagés et puis t'as des films commerciaux, quoi. Ou t'as de la musique engagée et puis t'as de la musique commerciale. Je sais pas si c'est la même chose en BD.
Du rap conscient.
Et... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Est-ce que t'as l'impression que c'est la même chose en BD ou est-ce que la BD, c'est un univers un peu différent ? Est-ce que t'as la sensation que ça bouge ?
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de BD très engagés. Et puis. Aussi, la BD, elle permet de faire la bande dessinée, ça reste un art populaire qui est là pour raconter des histoires à des gens qui ont n'importe quel âge. Donc, on peut pas être aussi didactique et faire un document, pas faire un brûlot, quoi. Il faut que ça reste une histoire qui soit plaisante à lire. La difficulté, c'est de quand même en profiter pour en caler une et faire passer un message. Moi, j'ai lu récemment pas mal de BD qui faisaient ça très subtilement et très habilement, même si elles prenaient la forme d'un pur entertainment, quoi.
Ouais.
Par exemple, tu vois, je pense à ça, j'ai lu récemment une BD qui est super, qui est le début d'une trilogie qui s'appelle, que je dise pas de conneries, Le Château des Animaux, je crois.
Je la connais pas, donc je te reprendrai pas.
Et qui donc est vraiment, alors c'est un grand format, cartonné, en couleur, en dessin hyper réaliste, sur une histoire d'animaux qui prennent possession d'un château, d'une ferme désaffectée, et puis, bon, c'est un peu la ferme des animaux d'Orwell, mais c'est super beau, il y a de l'action, c'est magnifique, etc. Et en fait... En fait, page 2, t'as compris que c'était vraiment une caricature de la société. Et de comment les luttes de pouvoir se font et comment c'est toujours les mêmes qui bossent pour les autres. Et c'est bouleversant et ça met très en colère et c'est hyper brutal. Mais d'extérieur, on peut rien leur reprocher. C'est très gentil, c'est une BD qu'on peut offrir aux enfants, c'est super. Je pense que les auteurs de BD sont capables de manière hyper subtile de... faire du rap conscient. Tu peux faire de la BD consciente de manière méga subtile et où mamie offrira quand même la BD à son petit-fils à Noël.
Ouais.
Je pense qu'on est assez habitué à faire ça parce que pendant très longtemps, les auteurs de BD, on a voulu absolument que ce soit des gens qui écrivent des trucs pour les enfants un peu gnagnins.
C'est ça.
Et c'est des gens qui avaient déjà plein de choses à dire. Donc on est assez habitué au cheval de Troie des belles images pour dire des choses difficiles.
Ah, c'est marrant parce que moi j'ai la sensation, mais peut-être parce que c'est moi qui ai vieilli bêtement, hein, que la BD pour adultes, finalement, c'est quelque chose d'assez récent. Non.
Oui, il y a un truc aussi qui a vraiment existé, qui a explosé en France dans les années 90.
Pas si récent, ça fait 30 ans. Du coup.
Tu étais un enfant avec une maison d'édition qui s'appelle l'Association, qui a quand même vraiment mis en place ça et qui a permis aux auteurs de raconter les histoires qu'ils voulaient, comme ils voulaient, sans contrainte de format. Et donc plein de nouveaux récits, plein de nouvelles voix ont commencé à pouvoir exister. Mais là, elle a atteint sa maturité quand même, cette époque-là. Maintenant, il y a vraiment des bandes dessinées qui parlent de tout. Il y en a beaucoup, justement, qui deviennent de la BD documentaire. Tu vois, il y a une BD qui a très bien marché sur les algues qui envahissent la côte, etc. Enfin, tu peux vraiment faire du documentaire très... Il y a des auteurs de BD qui sont interdits de séjour aux États-Unis.
Ah ouais ?
Ouais, parce qu'ils...
Ah, wow.
Ben oui, bien sûr, on peut se faire des ennemis politiques en faisant de la BD.
Je sais pas du tout.
Mais si, on peut vivre sous protection policière. Grâce à des choses qu'on écrit dans les BD.
C'est incroyable. Moi, j'ai la sensation que, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que la BD, c'est un outil, on peut appeler ça comme ça, ou un média, je sais pas comment appeler ça, mais un média, hyper accessible, qui fait vraiment passer les idées de manière efficace. Un petit peu, tu vois, entre le documentaire vidéo et le texte. C'est-à-dire que le texte, bon, c'est un peu littéraire. La vidéo, parfois, c'est long et c'est rébarbatif. T'as vraiment le truc, c'est de l'infotainment, quoi. Je sais pas comment appeler ça, quoi. C'est horrible comme mot.
Non, après, ce qui est dangereux, c'est de commencer à penser que et d'ailleurs, c'est normal, c'est un peu un écueil de ça, c'est se dire, bon, on a un truc à expliquer aux gens, on va faire une petite BD. Typiquement, tu vois, j'en sais rien, on se dit, on va expliquer aux gens que le SNU c'est super, on va leur faire une BD, tu vois. Faut quand même, c'est un art en fait. Je suis pas du tout en train de dire attention à la noblesse de la bande dessinée, mais ça c'est la garantie de faire une très mauvaise bande dessinée en fait. De se dire, idéal comme moyen pour expliquer des choses compliquées, ça marche pas. En fait, il faut plutôt se demander ce qu'elle peut apporter qu'aucun autre média ne peut faire, notamment en possibilité de narration. Le fait de pouvoir avoir du silence, de pouvoir avoir des images muettes, ce qui est très compliqué autrement, de pouvoir avoir des changements de rythme. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais c'est la meilleure façon de raconter une histoire aussi, dans le sens où tu n'as pas de limite de budget. C'est-à-dire que, par rapport à un film, tu peux te dire une scène de foule, banco. Je vais la dessiner longtemps, mais ça va me prendre du temps. Mais ça coûte le même prix, en fait. J'ai aucune limite de moyens, à part comment je veux raconter mon histoire.
Effets spéciaux.
Effets spéciaux gratuits. Enfin, quand même, ça ferait rêver un réal de savoir tout ce qui n'est pas un problème quand on dessine. Mais donc, c'est surtout, on peut mieux raconter certaines choses en BD et pas juste, ça permet de montrer des choses qui sont difficiles. Je pense que, attention à la BD fourre-tout pour être pédagogue et pour se dire, c'est bien, on a à la fois le texte et l'image. Quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les marques ont essayé d'aller là-dedans à un moment donné.
Pas mal,
il me semble.
Voilà. Après, ils se sont rabattus sur les youtubeurs qui font des vidéos plutôt.
N'est-ce pas ? Et puis maintenant, ils vont sur le podcast.
Voilà, c'est ça.
C'est un petit cycle comme ça.
Ouais.
Le cycle de la tendance. Comment tu envisages. La suite, comment, enfin pas la suite, là, j'imagine que t'as d'autres idées en tête et que t'as d'autres combats à mener, non? T'as pas d'autres combats à mener?
Ah bah si, toujours, mais j'ai pas d'idées, non.
Non, mais pas d'idées, forcément, tu es en pleine promo d'un bouquin, donc tu vas pas commencer à réfléchir à autre chose, mais Pour toi, ou, non, peut-être une autre question d'ailleurs, c'est peut-être plus intéressant. C'est, tu disais, finalement, la BD, ça peut pas servir tous les propos, il faut voir où est-ce que ça sert vraiment, etc. Est-ce que tu penses que ça peut servir n'importe quel sujet, mais traité de manière différente, ou est-ce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent plus?
Non, tu je pense que ça peut, je sais pas si ça le sert le sujet, mais ça permet de raconter tout. Ça, j'en suis sûre. Et tous les niveaux de gravité et s'adresser à plein de gens. Et après, effectivement, la difficulté, mais c'est aussi le défi qui est chouette pour un auteur, c'est de se demander comment le raconter. Qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va pas montrer. En BD, il y a un truc qui est hyper important, c'est l'ellipse de ce qui se passe entre deux dessins. C'est-à-dire que tu montres deux choses, mais la chose la plus importante, c'est ce que le lecteur va devoir imaginer qui s'est passé entre deux cases, typiquement. Parce que tu peux pas tout lui dire, voilà. Donc c'est à lui de raccorder les points et d'imaginer tout ce qui s'est passé entre deux cases. C'est l'art elliptique, voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire une scène super dure. Alors comment je vais la, dans quel sens je vais la tourner pour que ce soit beau, pour pas cacher, mais en même temps on peut pas tout montrer. En fait, on peut se permettre de décoller du réel. On peut être complètement poétique au milieu de quelque chose de très réaliste. On peut faire une ellipse, on peut avoir de la voix off, on a vraiment l'éventail de tout ce qui est possible comme outil de narration. Donc on peut tout raconter. Après, ce qui est dur, c'est de trouver comment.
Ouais, forcément. Et justement, toi, tu bosses comment? Tu écris, tu dessines ou tu bosses avec une rédactrice?
Non, j'écris.
T'écris aussi. Avant, tu faisais ça aussi? Je pensais que t'avais une rédactrice avant, c'est marrant. J'étais convaincu.
Non.
Et c'est parce que ces deux métiers qui sont assez différents finalement, non?
Pas tant. En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu cloisonnes pas écriture et dessin quand tu fais de la bande dessinée. Tu penses une mise en scène dans ta tête, et après tu te dis telle scène. Il va y avoir une partie qui va être dite et une partie qui va être vue. Et à moi de mélanger les deux. Enfin, je connais pas beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD qui pensent réellement texte et image. Je pense que tout le monde pense mise en scène et se dit après, ok, donc il ouvre la porte, il dit bah. Enfin, tu penses une. Tu penses à comment la scène a lieu. Et moi, j'écris avant. Pour avoir l'ossature vraiment de l'histoire et être sûr que j'ai bien ma fin, etc. Mais après, quasiment tout de suite, quand je dis que je suis en train d'écrire ma BD, en fait, je suis en train de la dessiner. Ouais. C'est à ce moment-là que tout se met en place. C'est pas un texte. En fait, c'est pas un texte illustré. C'est vraiment une mise en scène. Et les gens qui arrivent à avoir un super binôme scénariste-dessinateur, en fait, ils se voient tout le temps. Ils bossent ensemble.
Ils ne reçoivent pas
un fichier doc avec le texte et c'est parti, quoi. Donc. Quand tu le fais toi-même, c'est encore plus simple. Vous êtes deux dans ta tête, hop, la conversation est encore plus facile à avoir. Donc,
je crois que ça peut être difficile de temps en temps.
Ça rend un peu fou.
Et pour les gens qui lisent pas de BD, parce qu'il doit y en avoir quand même plein parmi les gens qui écoutent, il y a une typologie des personnes qui lisent des BD ou pas? Parce que, est-ce qu'on
le
t'a déjà
collectionneur.
Non, mais je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question, mais tant que je suis face de toi, je me dis...
Ouais, j'ai envie de te répondre un truc un peu nul et creux, du genre, il y a autant de lecteurs qu'il y a de BD. Mais ce serait pas complètement faux, en fait, parce que il y a les vieux collectionneurs, hein, mine de rien. Alors, ils collectionnent pas toujours, mais c'est des gens qui ont une espèce de nostalgie de leur enfance et qui font vivre à l'âge adulte leur passion d'enfant. Donc, ils continuent à avoir les yeux qui pétillent en te racontant leur premier tunique bleu, tu vois. Bon. Il y a les gens qui se défendent de lire de la BD. Ils disent, alors moi, je lis pas du tout de BD, mais j'ai adoré ça et ça. Et ça, c'est génial aussi. Voilà. Parce que dans leur tête, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'ils en lisent. Je sais pas. Moi, je suis une lectrice assez compulsive, mais tardive. J'ai commencé à en lire tard.
D'accord.
Et je me suis rattrapée après.
Tu lisais plutôt des romans?
Je lisais d'abord pas.
D'accord.
Pendant longtemps.
Okay. Ouais.
Et après, des romans. Et après, très tard, très très tard, adulte, j'ai commencé à lire de la BD. Et puis, je me suis dit, oh là là. Maintenant, je vais lire plus que ça. J'ai fait le vœu de ne plus lire un livre sans image.
Ah, c'est vrai?
Non, c'est pas vrai. Mais j'en lis vraiment quand même beaucoup. Et c'est parce que j'ai été bien conseillée et que je suis tombée sur des libraires super, qui ont vraiment passé du temps à me dire que c'était pas... On peut pas entendre la phrase « Ah, je sais pas, moi j'aime pas la BD ». Ils vont dire « Non, t'as été mal conseillé, c'est tout. Tu peux pas dire que t'aimes pas la BD, ça a pas de sens ». C'est comme de dire « J'aime pas qu'on me raconte des histoires, c'est pas trop mon truc ». C'est pas vrai, t'es juste tombé sur les mauvaises BD. Enfin, pas les mauvaises, mais qui te conviennent pas, quoi. De la même manière que les films.
Ouais, bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a sans doute, pas chez moi évidemment, mais ce jugement qui est... Non mais la BD c'est pour les enfants, en fait, ça peut pas être pour les
95%
adultes.
De la Terre pense ça, oui.
Ah, c'est vrai,
toujours. Ah,
vrai
bah, oui, toujours.
Ah, wow.
Ah bah oui, tu sais, on a toujours les petits le commentaire qui se veut gentil, mais qui est quand même très révélateur de « Attends, mais moi, la BD, je trouve ça super. » Et puis si ça peut en plus amener les enfants à la lecture et comme ça, après, ils lisent des vrais livres.
Non.
Mais ça, on l'entend tout le temps.
Ah, sérieux?
Bah oui,
ah,
quel merveilleux moyen de mettre les enfants à la lecture. Ça, c'est quand même incroyable.
Ah ouais.
Oui. Mais bon, c'est normal, il y a des images, c'est beau. Donc beau égale, quand quelque chose est beau ou ludique, on ne peut pas se dire que ça peut être pour les adultes, parce que les adultes, ils ne sont pas censés aimer les choses belles et ludiques, ils sont censés aimer les trucs sérieux et durs et austères. Et on ne peut pas avoir encore cette part d'amour des belles choses et des belles images et des belles histoires adultes, sinon ça veut dire qu'on n'est pas sérieux.
C'est marrant parce que moi, j'ai la même réflexion sur mon podcast où tu sais, enfin, j'essaie de traiter des sujets plutôt sérieux, mais tu vois, de manière accessible. Enfin, moi, je trouve que l'intelligence, je me dis pas ça, mais en tout cas, la culture, elle a pas besoin d'être chiante, en fait. Enfin, tu peux avoir une discussion très intéressante de manière relax et cool, et tu vois, ce qu'on est en train de faire. T'as pas besoin que ça soit compliqué, avec, tu vois, verbieux, machin. Ce qui est souvent le cas, en fait. Tu vois, il y a des gens que j'ai reçus ici, où j'ai regardé des interviews d'eux, c'était chiant. Franchement, c'était hyper pénible. Mais c'est parce que, en fait, les questions étaient chiantes aussi, quoi. C'est-à-dire que, et du coup, je crois que, il y a vraiment ce truc autour de la culture où, c'est peut-être français, j'en sais rien, mais où tu sais, t'as besoin que ça soit un peu chiant, parce que sinon, c'est pas vraiment sérieux.
Et parce que aussi, je pense que sinon, ça devient un peu trop accessible à tout le monde et que c'est pas ce qu'on veut. On n'a pas forcément envie que la culture soit grand public.
Tu crois?
Je crois qu'il n'y a pas de volonté vraiment publique forte de faire que la culture soit accessible. Je vais pas toujours prendre cet exemple-là, mais pour les gens qui ont voyagé un peu et qui ont vu ne serait-ce qu'un musée en Angleterre, la population a quand même rien à voir avec un musée en France.
C'est clair.
C'est blindé d'enfants dans tous les sens et il y a des gens pour qui c'est une sortie du dimanche, on sait pas quoi foutre, on va au musée.
Il y a de la mixité.
En France, il y a une. Même quand on a choisi parfois de tenter la vraie gratuité, les mêmes gens reviennent plusieurs fois. Mais il n'y a pas de nouvelles personnes. On n'arrive pas à ouvrir les bras très grands en disant la culture est accessible et c'est le casse-tête de toutes les politiques culturelles. Mais c'est-à-dire comment faire pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont exclus, qu'ils n'ont pas les codes, que ce n'est pas pour eux. Et je pense que c'est une des forces de la bande dessinée, c'est que pour le coup, elle ouvre vraiment les bras, quoi. Alors. Du coup, le revers de la médaille, c'est qu'on dit « Ah oui, Mickey, les enfants !» On dit « Bah, ok, soit, les Mickey, les enfants. » Mais pas que. Et du coup, si jamais, sous couvert des Mickey et des enfants, on a aussi « Ah ouais, la guerre froide et la Shoah !» Bah, tu vois, en fait, c'est cool, en fait. Tant mieux. Je trouve que il faut vraiment être fier de la popularité de la bande dessinée. C'est pour ça que vouloir absolument en faire à tout prix... un événement Télérama, le roman graphique. C'est très bien d'inventer des classifications dans la BD pour dire ça, c'est de la BD sérieuse. Et moi, je l'ai vu même avec mes propres albums, tu vois, comme à un moment, tout d'un coup, on m'a donné le badge de « Ah, bah attends, tu fais de la vraie bande dessinée, tu fais de la biographie, tu vois. »
C'est quoi de la vraie bande dessinée?
Ah, c'est sérieux, tu vois. Ça suffit, les histoires de gonzesses. Maintenant, c'est des biographies. C'est sérieux.
Ah.
On peut s'en servir dans les écoles, tu vois. Je dis, mais non, en fait, j'espère que vraiment, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera... Les petits Mickey et que les enfants, ils diront pas « c'est chiant ». C'est vraiment une défaite.
Ouais,
quand on fait des livres chiants, c'est une défaite, quoi.
Mais pour tout le monde, enfin, ouais, c'est bizarre.
Ouais, mais il y a une respectabilité à gagner dans les arts populaires. Tu vois, tu parlais de la musique, mais c'est pareil. Ah, c'est quand même très grand public, c'est très... Ouais, tu vois,
très populaire.
Très populaire. Populaire, c'est pas un mot qui fait rêver, tu vois.
Non.
Alors que c'est la grande victoire de la culture, c'est quand elle est populaire.
Ouais, bah ouais, ouais. C'est comme tu sais, on appelle de la vulgarisation. Mmh. Tu sais qu'il y a un mot, en fait, j'avais cette discussion avec Aurélie Jean, où tu sais, il y a les chercheurs, et puis de l'autre côté, il y a les gens.
Elle fait de la vulgarisation.
Et elle fait de la vulgarisation. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est un mot qui est moche. Alors qu'en fait, c'est génial, parce que justement, le but de la culture, c'est de la rendre accessible. Mmh. Enfin, et accessible, ça ne veut pas dire débile. Enfin,
Ouais, ou du savoir, dans son cas à elle, et dans le cadre de la vulgarisation. Le fait de transmettre le savoir, comment ça se fait que ce soit pas plus valorisé le fait que des gens fassent ça?
Mais c'est ça la vraie intelligence pour moi. Enfin, de réussir à transmettre, parce que sinon tu restes dans ta petite tour d'ivoire et c'est sympa, mais... Mais du coup, la BD aide pas mal à faire ça, je trouve.
Ouais.
En tout cas, toi, tu t'en sers beaucoup comme ça.
C'est marrant, d'ailleurs, ce mot vulgarisation, qu'on a inventé un mot, qu'on n'ait pas pu s'empêcher d'en faire un mot dégueulasse. Tu vois.
Bah ouais, parce que c'est vulgaire, à la base.
On aurait pu plutôt se focaliser sur le fait que ça élargit, que ça ouvre, on va dire, c'est vulgaire.
C'est marrant quand même. C'est drôle. Bon. Ce podcast s'appelle Vlan. Je voulais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Et où, comme tu veux.
C'est dur comme question. Les gens, ils disent quoi en général? Ils disent les choses qu'ils veulent plus voir.
Écoute, ils peuvent dire un truc par rapport à ce qu'ils viennent de raconter.
Ouais.
Ou alors rien à voir.
Rien à voir.
Tu peux dire je ferme la porte à la gare. Non, je te...
à quoi j'aimerais bien fermer la porte? Mais moi, j'ai le pouvoir de fermer la porte à rien, malheureusement. Si je pouvais... Si j'avais le Death Note en main. Non, je sais pas. J'aimerais bien ouvrir la porte à un peu d'optimisme. Mm-hmm. Je vais parler vraiment perso. En ce moment, je fais la promo de mon album, donc je fais beaucoup d'interviews où on me demande si je trouve que quand même, c'est mieux là depuis quelques années, tout ça, les femmes et tout. Et à chaque fois, j'ai l'impression de les plomber. Je leur dis, je trouve pas, moi, je trouve pas que ça avance très vite, je trouve pas que ce soit super. Donc j'aimerais bien ouvrir la porte à un peu d'optimisme. J'aimerais bien être comme les militantes que je connais qui sont les plus fortes et les plus enthousiastes et qui arrivent à se concentrer sur les signaux positifs et se dire, il y a quand même du mieux. J'aimerais bien parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait que plonger de plus en plus et que c'est inéluctable qu'on fonce dans le mur politiquement et me dire, mais non, regarde, il y a plein d'initiatives. Toi, tu dois en voir plein, du coup, avec ce podcast. Ouais. Tu dois avoir plein de gens qui te donnent des raisons de penser qu'on n'est pas dans le mur.
Moi, je suis assez positif.
C'est vrai ? Génial. Fais-moi des stages.
On pourra discuter.
S'il te plaît, envoie-moi des mémos. Ouais, j'aimerais bien ouvrir la porte à y croire un peu plus, là.
Ok, on en reparle.
Ok.
Merci beaucoup, Pénélope.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt !